Et si on parlait ouvertement de ce qui nous fait peur et qui pourtant nous concerne toutes et tous, le deuil. L'association Couples et Familles de l'Ain propose des cafés deuil à Bourg-en-Bresse et Étré, Bresse-Vallon. Nous vous proposons Paroles de deuil, 7 épisodes de podcast qui abordent le sujet intimement et un épisode sur la création des cafés deuil. Les personnes qui témoignent fréquentent le café deuil, elles se livrent à nous avec leur personnalité et leur vécu.
Je peux en faire d'autres, mais un enfant ne remplace pas un autre.
I am a poor wayfaring stranger, while traveling through this world of woe.
Ben, récemment, c'est arrivé que j'ai perdu mon bébé. Elle est morte née. J'ai fini en réanimation dans le coma. Et ce qui a changé ma vie, c'est que tout a changé, ça c'est sûr. Les consultations, tout est bien passé jusqu'à mon 8e mois, où j'ai eu une grippe de type B. Donc je suis allée à l'hôpital, on m'a signifié que tout allait bien, que le bébé allait bien, que ça allait passer. Donc on m'a renvoyée chez moi. Et je suis allée trois fois on m'a renvoyée chez moi, sauf que la troisième fois, c'était la fois de trop. Et je me suis réveillée un mercredi matin. Je sentais que le bébé ne bougeait pas, mais j'ai mis sur le coup de la fatigue et puis je n'ai pas réagi. Et le jeudi matin, j'étais persuadée qu'il était arrivé quelque chose à mon bébé. Donc je suis allée à l'hôpital, on m'a mis tout ce qu'il fallait en place et ils ont découvert que son cœur ne battait plus. Au début, c'est le déni, hein. On n'y croit pas. Et puis après, c'est la réalité que c'est vrai, c'est arrivé. Et puis après, il faut accepter que le bébé n'est plus là, il faut le faire sortir. Ça s'est passé le 31 mars de 2023, donc c'est un jeudi. Donc on m'a hospitalisé le même jeudi, sauf qu'ils pensaient que les contractions allaient s'y faire, sauf que ça ne s'est pas fait. Et donc ils m'ont aidé pour que je puisse sortir le bébé. Le vendredi, rien. Et du coup, ils m'ont donné quelque chose pour accélérer plus. Donc, je suis descendue en salle d'accouchement. Et le bébé, elle est sortie. Toute seule, d'ailleurs. Il n'y avait personne. J'avais demandé à ne pas voir le bébé, mais j'ai dû la sortir toute seule. Et quand elle est sortie, ils l'ont pris, ils l'ont emmenée parce que j'ai dû crier pour que les gens viennent. Ils l'ont emmené et ça pleurait de partout, disons ma mère et ma famille. Et je me suis sentie un peu soulagée parce que mon ventre, il se passait des choses. Et puis d'un coup, elle m'a dit de sortir le placenta. C'est là où tout a basculé. Je crois qu'elle me disait, c'est pas normal. Et après, je me suis retrouvée en réanimation. Et puis, je me suis réveillée, je crois, le dimanche ou le lundi, il me semble. Mais je voyais que tout le monde était content parce qu'ils ont vu que je venais de loin, d'après ce que j'ai entendu. Quand je me suis réveillée, d'abord, j'ai vu mon mari allongé par terre. Apparemment, il était là depuis. Je ne pouvais pas marcher, en fait, je ne pouvais rien faire. Donc, il fallait que je fasse, qu'on me nettoie. J'étais devenue comme quelqu'un qui était incapable de rien du tout, ce que je ne savais pas. C'était difficile. Par contre, je n'avais toujours pas capté encore que je n'avais pas le bébé, parce que mon ventre était encore gonflé, je ne me rappelais pas trop. Et puis c'est après, une fois qu'on m'a débranché tout, et c'est là que je commence à poser des questions. C'est là que je réalise que je n'ai plus mon bébé. Que mon ventre est gros, mais il n'y a plus de bébé dedans. Et du coup, je commence à dire, il est où mon bébé? Il est où? On me dit, le bébé n'est plus là, vous ne vous souvenez pas? Je dis non, mon ventre est gros, je veux mon bébé. Et on me dit non, elle est morte. et que vous vous êtes retrouvés, vous nous avez fait une frayeur. Et puis voilà. Après, le lendemain, on m'a emmené à la salle de là où les femmes accouchent, dans le quartier des femmes qui ont accouché. Et là, c'était... Il y avait d'autres femmes là-bas, enceintes, qui ont accouché. Des bébés qui pleuraient. Et moi, je me retrouvais là, toute seule, sans le bébé. Et les seins qui ont commencé à produire du lait. Donc ça aussi, ça s'enclenche. Maintenant, il faut prendre des comprimés pour arrêter tout ça. Et le corps, en fait, il continue, il ne s'arrête pas. Et la machine est enclenchée. Sauf que je n'avais pas de bébé. Et moi, il fallait que je réapprenne à marcher. Il fallait que je réapprenne tout parce que la mémoire, elle était compliquée. Et j'avais des migraines pas possibles. Le dos, il avait pris un coup parce que j'ai gardé la péridurale plus longtemps. En fait, j'étais devenue l'ombre de moi-même dans cet hôpital. Au début, c'était la tristesse et le manque. Jusqu'à ce qu'il y a un des médecins qui vienne me voir, qui commence à m'expliquer une histoire de scientifique qui ne m'a pas convaincue. Et là, je me suis énervée, de la colère, beaucoup de colère, énormément de colère. Le manque et la colère. Parce que j'estimais que les explications n'étaient pas très, très, très claires. Et donc, ils étaient persuadés que ma tête ne fonctionnait pas, que eux, ils avaient fait comme il fallait, sauf que quand je leur racontais que je suis arrivée 3 fois, qu'on m'a renvoyée chez moi, ils ne croyaient pas, parce que tout ce que je disais, ma tête ne fonctionnait pas. J'avais une tumeur, d'après eux. J'avais des lésions cérébrales, d'après eux, ils m'ont fait passer tous les tests. Et finalement, rien, ils n'ont rien trouvé. Je leur ai expliqué, ils ne me croyaient pas. Jusqu'à ce que, quand je sors de l'hôpital, qu'on découvre que mon histoire que je racontais, elle était vraie, que je suis passée 3 fois, qu'elle m'a renvoyée chez moi, que la sage-femme avait laissé une trace. S'il n'y avait pas cette trace, aujourd'hui, je n'étais pas crédible. L'injustice, beaucoup d'injustice parce que je ne me suis jamais fait entendre comme il fallait. Depuis le début, je n'ai pas arrêté de marteler que, au pire, enlever le bébé. Si vous ne pouvez pas enlever le bébé, il y a des antibiotiques pour une femme enceinte. Mais ils ont refusé de me les donner. Et je leur ai dit que le bébé, il va lui arriver quelque chose. Personne ne m'avait écouté. Et l'injustice, oui, de ma religion et puis de mon groupe ethnique, on n'en parle pas beaucoup. Parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. C'est un premier bébé qui est décédé. Donc, on n'a pas le droit d'en parler. À la maison, j'ai tout le monde qui me soutient, mais tant que je n'en parle pas. Et je me sens frustrée de ne pas pouvoir en parler. Je me sens triste de ne pas pouvoir en parler. C'est l'omerta. On ferme la bouche parce qu'en Afrique, quand ça nous arrive, on ne doit pas en parler. Alors je vois une psychologue avec qui je parle, je vois une dame de la CAF avec qui je parle et j'ai trouvé un groupe de café deuil. Et je suis allée en parler et je me suis sentie beaucoup mieux. Et c'est grâce à eux aujourd'hui même que je pense que je vais beaucoup mieux grâce à eux. J'en ai fait que 2 séances, mais je me sens vraiment, ça m'a apporté énormément. C'est vrai que j'appréhendais parce que je me suis dit, je ne sais pas si on va m'écouter aussi, parce que vu que je ne dois pas en parler, est-ce que là-bas je peux en parler? Parce que c'est vrai que c'est un bébé, comme on me dit, que je n'ai pas connu, que je n'ai jamais vu. Donc pourquoi je la pleure? C'est ce qu'on me dit. Je vais en faire d'autres. C'est ce qu'on m'a dit aussi à l'hôpital. Sauf que j'ai bientôt 43 ans. Je me dis, c'était la dernière fois où j'allais faire mon dernier bébé. Et puis, je passais à autre chose. Sauf que oui, je peux en faire d'autres. Mais un enfant ne remplace pas un autre. Donc, je me suis dit, si je vais au café deuil, est-ce qu'ils ne vont pas me dire la même chose? Mais quand je suis arrivée, j'ai été très, très bien reçue. On m'a écoutée. On a pleuré ensemble. On a bu un café ensemble. C'était le but. Et ça s'est très, très bien passé. Je me suis sentie soulagée quand je suis rentrée à la maison. Et puis, c'est bizarre parce que il y avait une dame, son histoire là-bas, qui m'a beaucoup marquée. Vraiment marquée. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris une résolution et j'ai changé. J'ai vraiment changé. Ma vie, elle a commencé à changer ce jour-là. En positif, déjà. Mais j'avais encore l'idée que l'hôpital puisse reconnaître qu'ils avaient tort. Et ça, il n'y avait rien à faire. Ils refusaient. Donc, j'attendais l'autopsie. Ben, aujourd'hui, faire son deuil, c'est, pour moi, c'est pouvoir avancer, même à grands pas, à petits pas. C'est pouvoir avancer. Peu importe, il faut avancer. Et moi, personnellement, j'avais besoin, comme je le répétais, de la reconnaissance de l'hôpital. Et il y avait mon médecin qui me disait, c'est pas important finalement qu'ils reconnaissent ou pas. Pourquoi? Parce que si vous restez bloqué dessus, vous n'allez jamais faire votre deuil. Vous allez rester parce qu'ils ne vont pas reconnaître. Et s'ils reconnaissent, tant mieux s'ils ne reconnaissent pas. Ce n'est pas grave, mais au moins, vous allez là où vous allez, genre au café deuil. Et là-bas, vous arrivez à faire votre deuil là-bas. Et j'ai discuté aussi avec la dame qui avait aussi eu le même cas que moi, périnatale. Et ça aussi, ça m'a fait beaucoup avancer. Mais j'attendais toujours l'hôpital. Et puis finalement, j'ai eu les derniers résultats d'autopsie. Hein. Et des prises de sang, du tout. Et si aujourd'hui je suis en blanc là, c'est parce que j'ai décidé de faire mon deuil. Pour moi, c'est la paix. Et c'est pour passer à autre chose, parce que je m'habillais beaucoup en noir. Et le rouge, pour moi, c'est un peu la colère, mais c'est aussi l'amour. Et puis j'ai décidé de m'habiller comme ça, en blanc, en rouge. Et parce que mon cœur, il n'est pas totalement apaisé, mais il est un peu apaisé. J'arrive à penser à l'avenir, déjà, à passer à autre chose. Mais une chose est sûre que je ne peux pas oublier. Et j'estime que on n'aurait pu pas en arriver là. Avec un peu d'écoute. Mais je n'ai pas été entendue, je n'ai pas été écoutée. Pour toute dernière fois, là, parce qu'ils nous ont pris en photo, mon mari et moi, pour dire que c'est nous qui avons peut-être tué le bébé. Vous voyez l'injustice un peu, c'est horrible. Et je n'arrivais pas à accepter la situation. En fait, la colère, elle n'arrivait pas à passer. Et là, quand je suis repartie la toute dernière fois, ils n'ont rien trouvé. Toutes les analyses qu'ils ont cru qu'ils allaient pouvoir trouver sur nous pour nous incriminer, ils n'ont rien trouvé. Au final, le bébé est vraiment mort de la grippe, qu'ils ont minimisée. Voilà pourquoi je suis en blanc, parce que depuis le début, j'avais raison. L'enfant est mort du risque infectieux qu'ils ont minimisé en croyant que, comme j'avais déjà fait 3 jours de fièvre, ça allait passer. Sauf que, non. Mon histoire les a permis aujourd'hui d'écouter les femmes enceintes. Ils m'ont dit ça. Ils ont pris mon histoire, ils ont fait une conférence pour voir comment prendre en charge une femme enceinte qui a des difficultés comme mon cas. Sauf que le problème, c'est que moi, je ne voulais pas être un exemple. J'avais juste envie de rentrer à la maison avec mon bébé dans les bras. Mais bon, si mon histoire a permis d'aider certaines femmes enceintes, c'était tout ce que je voulais. La reconnaissance de leur part qu'ils m'ont fait du tort. J'ai enfin été entendue. Mais c'est un peu trop tard. Alors j'essaie d'avancer. Une fois qu'ils ont reconnu qu'ils auraient dû m'écouter, c'était juste un soulagement. Et là, je suis soulagée. Je sais pourquoi mon bébé est mort. Là, j'ai juste une dernière chose, c'est aller au crématorium parce que je ne suis pas encore allée là-bas. Et là, j'ai appris qu'ils l'ont incinéré, ce que je ne savais pas. Ça encore, c'est une autre histoire. Moi, j'en ai pleuré encore parce que dans ma culture et ma religion, on n'incinère pas. Mais bon, et ça, ils ne me l'ont pas dit. Mais bon, ce qui est fait est fait. Donc, je dois aller là-bas, lui parler. Et puis, je pense que ça sera vraiment la dernière étape. Et après, je pense que je vais pouvoir avancer, même si je n'oublie pas. Même si elle est dans mon cœur, même si elle est dans ma vie. Elle a existé, hein, elle est dans le livret de famille. Hein. Je vous conseille de ne pas rester toute seule. Il faut en parler autour de vous. Quitte à ce que les gens vous prennent pour quelqu'un qui n'est pas trop normal, mais il ne faut pas rester dans son coin, il faut en parler. Sinon, on reste dans son lit, on peut faire tout et n'importe quoi. J'ai pensé à sauter le mur qui est à l'hôpital. J'ai pensé plusieurs fois à sauter. Je me suis dit, si je saute, je vais mourir, ça c'est sûr, ou handicapé. J'ai pensé à avaler plein de comprimés que j'ai tout ouvert et je n'ai pas fait à cause de mes enfants. Et même vous qui n'avez pas des enfants, ne le faites pas. Ne le faites pas. Parce que la vie, franchement, elle vaut la peine. Et notre enfant, je pense, peu importe où il est, je pense qu'il ne peut pas nous oublier. Et nous, on ne peut pas l'oublier. Mais il faut essayer d'avancer. Ce n'est pas toujours rose. Il y a des jours, quand je n'ai pas envie de rien faire, je reste au fond de mon lit. Parce que je pense à mon bébé, parce qu'elle est morte le jeudi. Et je pense à elle. Et puis le lendemain, ça va mieux. Donc, on vit le jour au jour. Il ne faut pas se presser pour faire des choses. Il ne faut pas dire que bah, si je n'ai pas fait, c'est grave. Il faut s'écouter et vivre selon son rythme. Et quand on a décidé qu'on n'a plus envie de faire son deuil, qu'on veut passer à autre chose aussi, il faut le faire. Il ne faut pas regarder le jugement des gens. Il ne faut pas écouter les gens qui disent « Oh, mais c'est trop tôt. Oh, mais depuis, elle n'a pas encore passé à autre chose. » Il ne faut pas écouter. Il faut s'écouter soi-même, comment on se sent et à quel moment on a envie d'arrêter son deuil.
I am a poor wayfaring stranger while traveling through this world of woe. There's no sickness, toil or danger in that bright world to which I go.